Chapitre 2. Le délire de New York. 1. Jake s'endormit, le regard perdu dans l'obscurité la plus pure. Pas une étoile dans ce ciel nocturne et nuageux. Pas de lune non plus. Alors qu'il sombrait, il eut cette sensation de chute familière qu'il reconnut avec consternation. Dans sa vie précédente d'enfant soi-disant normal, il avait souvent fait ses rêves de chute, notamment au moment des examens. Mais ils avaient cessé depuis sa renaissance violente dans l'entre-deux-mondes. Puis, la sensation de chute s'évanouit. Il entendait une petite mélodie brève, comme un carillon, presque trop beau. Au bout de 3 notes, on avait envie que ça s'arrête. Et à la 12e, on était sûr de mourir si ça continuait. Chaque son semblait faire vibrer ses os. Hein, qu'on dirait de la musique hawaïenne, pensa-t-il. Car bien que ce petit carillon n'eût rien à voir avec le gazouillis funeste de la tramée, il n'en était pas si loin. Pas si loin. Et puis, juste au moment où il crut qu'il n'en pouvait plus, cet air terrible et splendide se tut. Derrière ses yeux clos, les ténèbres s'illuminèrent d'un éclat rouge sombre. Il les ouvrit avec précaution dans la lumière resplendissante du soleil, et il se retrouva bouche bée face à New York. Les taxis défilaient, dessinant un sillage jaune scintillant sous le soleil. Un jeune homme passa sans se presser à côté de Jake, avec son baladeur sur les oreilles, battant du pied dans sa sandale au rythme de la musique en marmonnant un « chalaba chalabo ». Un marteau-piqueur vrillait les tympans de Jake. Des masses de ciment tombèrent dans la benne d'un camion dans un fracas qui se répercuta sur les façades des immeubles. Le monde n'était qu'un fracas monstrueux. Sans s'en apercevoir, il s'était habitué au silence profond de l'entre-deux-mondes. Non, plus que ça, il en était venu à les aimer. Pourtant, le bruit et l'effervescence avaient leur charme. Jake ne pouvait le nier. De retour dans le délire de New York. Il sentit un sourire lui étirer les lèvres. Ok. Gémit une voix basse, plutôt abattue. Jake baissa les yeux et vit Otte assis sur le trottoir, sa queue sagement enroulée autour de lui. Si le bafouilleux ne portait pas de petites bottes rouges et Jake n'arborait pas les fameux mocassins rouges, Dieu merci, tout ça ressemblait quand même beaucoup à leur visite dans le Gilead de Roland qu'ils avaient atteint en voyageant dans le cristal rose du magicien. La boule de cristal qui avait causé tant de problèmes et de malheurs. Pas de cristal cette fois-ci. Il avait suffi qu'il s'endorme. Mais ce n'était pas un rêve. Il y avait plus d'intensité que dans aucun rêve qu'il n'avait jamais fait. Plus de texture. Et puis les gens ne se donnaient pas la peine de faire un détour pour les contourner, lui et Otte. Il se tenait à gauche de l'entrée d'un bar appelé le Kansas City Blues. Tandis que Jake se faisait cette remarque, une femme enjamba carrément Otte, remontant un peu sa jupe droite noire au-dessus du genou. Son visage préoccupé. « Je suis la New Yorkaise typique, je m'occupe de mes affaires, n'essayez pas de m'arnaquer. » Voilà ce que ce visage disait à Jake. Resta imperturbable. Ils ne nous voient pas, mais ils nous sentent en quelque sorte. Et s'ils nous sentent, c'est qu'on doit être là pour de vrai. La première question qui lui vint logiquement fut « Pourquoi ?» Jake y réfléchit pendant un moment, puis il décida d'y revenir plus tard. Il savait que la réponse viendrait en temps et en heure. En attendant, pourquoi ne pas profiter de New York tant qu'il était là ? Bien, ôtez, dit-il, et il tourna au coin de la rue. Le bafouilleux, qui n'était visiblement pas un gars de la ville, marchait tellement près de lui que Jake sentit son souffle lui caresser la cheville. La deuxième avenue, pensa-t-il. Puis, mon Dieu ! Avant même que sa réflexion n'aille plus loin, il aperçut Edidine devant la maroquinerie Barcelona. Il avait l'air hébété et carrément déplacé avec son vieux jean, sa chemise et ses mocassins andins. Il avait les cheveux propres, mais ils lui pendaient aux épaules et sa coiffure suggérait qu'il n'avait pas vu un professionnel du ciseau depuis un bout de temps. Jake se dit soudain qu'il ne devait pas avoir une meilleure dégaine lui-même. Lui aussi portait une chemise en daim et en bas les restes plutôt usés des dockers qu'il portait le jour où il avait quitté la maison pour de bon, mettant le cap sur Brooklyn, Dutch Hill et un autre monde. Pas plus mal que personne puisse nous voir, se dit Jake, pour se raviser très vite. Si les gens les avaient vus, ils auraient probablement fait fortune avant midi en vendant leurs fringues. Cette idée le fit sourire. Salut, Eddie, lança-t-il. Bienvenue à la maison. Eddie hocha la tête, l'air perplexe. Je vois que t'as amené ton ami. Jake se baissa et tapota affectueusement ôté sur la tête. C'est ma carte American Express à moi, je ne vais nulle part sans lui. Jake aurait bien poursuivi dans ce registre, il se sentait spirituel, pétillant, avec plein de choses amusantes à raconter, quand quelqu'un apparut au coin de la rue, passa devant eux sans les regarder comme tous les autres, et que tout bascula. Il s'agissait d'un gosse portant des dockers qui ressemblaient à celles de Jake, tout simplement parce que c'était celle de Jake. Pas celles qu'il portait en ce moment, mais c'était bien les siennes. Pas de doute. Tout comme les tennis. C'était celle que Jake avait perdue à Dutch Hill. Le type en plâtre qui montait la garde devant la porte entre les mondes et lui avait littéralement arraché des pieds. Le garçon qui venait de les dépasser s'appelait John Chambers. C'était lui, seulement dans cette version. Il avait l'air doux et innocent, et douloureusement jeune. « Comment as-tu survécu ? » demanda-t-il à son propre dos qui s'éloignait. « Comment as-tu survécu à la tension mentale au fait d'être devenu fou, d'avoir fugué de la maison et à cette horrible baraque de Brooklyn ? Et surtout, comment as-tu survécu au gardien de la porte ? Tu dois être plus fort que tu n'en as l'air. » Eddie dut y regarder à deux fois, et son expression était tellement comique que Jake éclata de rire malgré sa surprise. Ça lui rappelait ces BD humoristiques dans lesquelles un personnage essaie de regarder dans deux directions à la fois. Il baissa les yeux et vit la même expression sur la tête d'Oté, ce qui ne fit que rendre les choses encore plus poilantes. « Putain ! Qu'est-ce qui se passe ?» Ralenti, fit Jake. Et il éclata d'un rire encore plus fort. Il trouva qu'il avait un rire de maboule à la con, mais il s'en fichait. Il se sentait maboule. C'est comme ça qu'on observait Roland dans le Grand Hall, à Gilead. Seulement là, on est à New York. Et on est le 31 mai 1977. C'est le jour où j'ai filé à l'anglaise de Piper. On se la repasse au ralenti, mec. Filé à... commença Eddie, mais Jake ne lui laissait pas l'occasion de finir. Une autre idée venait de le frapper, sauf que frapper était loin d'être assez fort. Il fut littéralement enterré comme un homme qui se retrouve sur la plage au moment où un raz-de-marée déboule. Son visage se mit à rayonner d'un tel éclat qu'Eddie recula d'un pas. « La rose !» souffla-t-il. Il se sentait une faiblesse dans le diaphragme qui lui interdit de parler plus fort et il avait la gorge aussi sèche qu'une tempête de sable. « Eddie, la rose !»« Eh bien quoi ? C'est le jour où je la vois !» Une main tremblante, il toucha l'avant-bras d'Eddie. « Je vais à la librairie, puis sur le terrain vague. Il me semble qu'il y avait un traiteur. » Eddie acquiesça. Il commença à avoir l'air très excité, lui aussi. « Chez Tom et Jerry, charcuterie fine et artistique au coin de la 2e et de la 46e. »« Le traiteur a disparu, mais la rose est toujours là. C'est moi qui descends la rue, va la voir, et nous aussi, on peut la voir. » À ces mots, les yeux d'Eddie s'enflammèrent. « Faut y aller, alors ! Putain, on doit pas te perdre ! Le perdre ! On se comprend, quoi ! » !»« Pas de panique, » répondit Jake. Je sais où il va. 2. Le Jake devant eux, Le Jake de New York, le Jake du printemps 1977, marchait lentement en regardant partout, clairement en train de sécher les cours. Le Jake de l'entre-deux-mondes se rappelait très précisément ce que ressentait ce garçon. Le brusque soulagement quand les voix qui se battaient à l'intérieur de sa tête « Je suis mort. Non, je suis pas mort » avaient fini par arrêter leur chamaillerie. C'était près de la palissade en bois, avec les deux hommes d'affaires qui jouaient au morpion avec un stylo Mark Cross. Et puis, il y avait eu le soulagement d'avoir quitté Piper et cette super composition de dingue en anglais dans la classe de Madame Avery. Le devoir de fin d'année comptait pour 25% de la moyenne du semestre, et là-dessus, Madame Avery avait été très claire, et Jake avait fait du charabia. Le fait qu'elle lui ait récemment rendu un A+, n'y changeait rien. Tout ce que ça montrait, c'était que c'était le monde entier qui foirait, qui tournait au 19. Se sentir libéré de tout ça, même pour un court moment, avait été super. Tu m'étonnes qu'il séchait les cours. Sauf qu'il y avait quelque chose qui clochait, se dit Jake. Le Jake qui suivait sa propre personne. Quelque chose. Il regarda autour de lui, mais il ne réussit pas à savoir quoi. Le fin mai, le soleil chaud de l'été, plein de promeneurs et de gens faisant leurs emplettes sur la deuxième avenue, des tas de taxis, de temps à autre une longue limousine noire. Rien de mal à ça. Sauf que si, tout allait mal. 3. Eddie sentit le gamin le tirer par la manche. « Cherchez l'intrus ?» demanda Jake. Eddie balaya la scène du regard. En dépit de ses propres problèmes d'adaptation, ce retour complexe dans un New York qui se situait clairement quelques années avant son « camp » à lui, il comprenait ce que Jake voulait dire. Quelque chose clochait, bel et bien. Il baissa les yeux vers le trottoir, subitement convaincu qu'il n'y verrait pas son ombre. Ils avaient perdu leur ombre, comme ces gosses dans l'une de ces histoires, l'un des 19 contes de fées. Ou c'était peut-être quelque chose de plus récent, comme l'armoire magique ou Peter Pan. Est-ce que l'un de ceux-là pourrait s'intituler « Le 19 moderne » Peu importait de toute façon, parce que leurs ombres étaient bien là. « C'est pas normal, » se dit Eddie. « On ne devrait pas voir son ombre quand il fait aussi sombre. » Idiot comme réflexion. Il ne faisait pas sombre. C'était le matin, bon sang, un beau matin de mai, avec son soleil qui chatouille les chromes des voitures qui passent et les vitrines des boutiques de la deuxième avenue, et ça brille tellement qu'on doit plisser les yeux. Pourtant, Eddie avait l'impression qu'il faisait noir, comme si tout ça n'était qu'une façade fragile, comme la toile de fond d'un décor de théâtre. Au lever du jour, dans la forêt d'Ardenne, ou un château au Danemark, ou bien la cuisine chez Willy Loman. Dans le cas présent, le décor, c'est la deuxième avenue dans le centre de New York. Oui, comme ça, sauf que derrière ce décor-là, on ne trouverait pas d'arrière-boutique et d'atelier, rien que les ténèbres à perte de vue. Un vaste univers mort où la tour de Roland est déjà tombée. « Je vous en prie, faites que je me trompe, » pensa Eddie. « Faites que ce ne soit qu'une question de choc naturel ou un bon vieux coup de panique. » Mais il n'y croyait pas lui-même. Comment on est arrivé ici ? Demanda-t-il à Jake. Il n'y avait pas de porte. Sa phrase se perdit, puis il demanda avec une pointe d'espoir. Peut-être que c'est vraiment un rêve. Non, répondit Jake. Ça ressemble plutôt à la fois où on a voyagé dans le cristal du magicien, sauf que cette fois, il n'y avait pas de boule. Une idée le frappa. « Mais tu as entendu la musique ? Le carillon ? Juste avant d'atterrir ici ?» Eddie fit oui de la tête. « Impossible de s'en détacher, j'en ai eu les larmes aux yeux. »« Voilà, exactement pareil pour moi. » Otté reniflait une bouche d'incendie, Eddie et Jake ralentirent pour laisser le petit gars lever la patte et ajouter sa marque à ce qui était, sans l'ombre d'un doute, un tableau de chasse bien garni. Devant eux, cet autre Jake, le gamin de 77, marchait toujours lentement, regardant tout bouche bée. On aurait dit un touriste du Michigan. Il se mettait même sur la pointe des pieds pour essayer d'apercevoir le sommet des immeubles, et Eddie pensa que si le conseil régional du cynisme de New York vous surprenait à faire ça, il vous confisquait votre carte Bloomingdale. Il ne s'en plaignait pas, pour tout dire. Le gamin était plus facile à suivre. Et au moment où il se faisait cette réflexion, le gamin de 77 disparut. « Et où es-tu passé ? Bon Dieu, où es-tu passé ?»« Du calme, » fit Jake. À ses pieds, Otte ajouta sa contribution. « Calme !» Il souriait de toutes ses dents. « Je viens juste d'entrer dans la librairie, là, le restaurant spirituel de Manhattan, elle s'appelle. C'est là que t'as acheté Charlie le Chouchou et le livre de devinette ? C'est ça ?» Eddie aimait ce sourire ébloui et mystifié sur les lèvres de Jake. Il lui illuminait tout le visage. « Tu te rappelles comme Roland était excité quand je lui ai donné le nom du propriétaire ?» Eddie n'avait pas oublié. Le propriétaire du restaurant spirituel de Manhattan s'appelait Calvin Tower. « Dépêche-toi, lança Jake, je veux regarder !» Eddie n'eut pas à se faire prier. Lui non plus ne voulait rien rater. 4. Jake s'arrêta sur le seuil de la librairie. Son sourire ne s'éteignit pas vraiment, mais il faiblit. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Eddie. « Qu'est-ce qui va pas ?»«
Je sais pas. Il y a quelque chose qui a changé, on dirait. C'est juste que... Il s'est passé tellement de choses depuis que je suis venu ici. »
Il regardait l'ardoise dans la vitrine et Eddie trouva que c'était là une très bonne manière de vendre des livres. Ça ressemblait au genre de truc qu'on voyait dans les brasseries ou sur le marché aux poissons. Menu du jour. En provenance du Mississippi, William Faulkner, poêlé. Livre relié au prix marqué, livre de poche, vintage, 75 cents l'unité. En provenance du Maine, Stephen King, congelé. Livre relié au prix marqué, solde vente club, poche, 75 cents l'unité. En provenance de Californie, Raymond Chandler, rôti. Livre relié au prix marqué, livre de poche, 7 pour 5 dollars. Le regard d'Eddie changea de plan et il aperçut l'autre Jake, celui au teint blafard, sans cette clarté dure dans les yeux, debout près d'un petit présentoir. Les livres pour enfants, sans doute à la fois les 19 contes de fées et le 19 moderne.
« Arrête ça !» s'exhorta-t-il lui-même. « Encore ces conneries de toc, et tu le sais bien. »
« Peut-être. Mais ce bon vieux Jake de 77 était sur le point de faire un achat qui avait dû leur changer et très probablement leur sauver la vie. Il serait bien temps de s'inquiéter du nombre 19 plus tard, ou jamais s'il y arrivait.
« Viens !» fit-il à Jake.
« Entrons. » Le garçon hésita.
« Et qu'est-ce qui t'arrive ? » demanda Eddie.
« Tower ne pourra pas nous voir, si c'est ce qui t'inquiète. »«
Tower, non, » dit Jake. « Mais si lui, il peut. »
Du doigt, il désigna cet autre lui-même, celui qui n'avait pas encore rencontré Gasher et l'homme Tic-Tac ou les vieux habitants de River Crossing, celui qui n'avait pas encore croisé Blaine le Mono ou Réa du Coos. Jake regardait Eddie avec une sorte de curiosité hagarde.
« Et si je me vois, moi ?»
Eddie se dit qu'en effet, ça pourrait bien arriver.
« Bon Dieu, tout pouvait arriver !»
Mais ça ne changeait rien à ce qu'il ressentait au fond de son cœur.
« Je crois qu'on est censé entrer, Jack. »«
Ouais, » fit-il dans un long soupir. « Moi aussi, c'est ce que je crois. »
5. Ils entrèrent et passèrent inaperçus, et Eddie fut soulagé de compter 21 livres sur le présentoir qui avait attiré l'attention du garçon. Sauf que, bien sûr, quand Jake en retira les deux qu'il voulait, Charlie le Chouchou et le livre de devinette, il n'en restait que 19.
« Tu as trouvé quelque chose ?» demanda une voix douce.
Il s'agissait d'un gros type vêtu d'une chemise blanche ouverte sur la poitrine. Derrière lui, accoudé à un comptoir qu'on aurait dit chippé dans un grand hôtel du début du siècle, un trio de vieux gars buvait leur café en grignotant des pâtisseries. Un échiquier avec une partie en cours était posé sur la plaque de marbre.
Ce type, assis au bout, il s'appelle Aaron Dipnow, chuchota Jake. C'est lui qui va m'expliquer la devinette avec son son.
Chut, fit Eddie.
Il voulait entendre la conversation entre Calvin Tower et le gamin de 77. Elle lui paraissait tout à coup extrêmement importante. Mais pourquoi est-ce qu'il faisait si sombre dans ce foutu trou? Sauf qu'il ne fait pas sombre du tout. À cette heure-ci, le côté est de la rue est inondé de soleil, et avec la porte ouverte, la boutique reçoit toute la lumière. Comment peux-tu dire qu'il fait sombre? Parce que c'était le cas, bizarrement. La lumière du soleil, le contraste formé par la lumière du soleil, ne faisait qu'amplifier le phénomène. Le fait de ne pas pouvoir voir l'obscurité ne faisait qu'empirer les choses. Et Eddie comprit une chose terrible. Ces gens étaient en danger. Tower, Dipno, le gamin de 77, probablement lui et le Jake de l'entre-deux-mondes, et Otey aussi. Ils étaient tous en danger. 6. Jake contempla cet autre lui-même, plus jeune, qui reculait devant le libraire, les yeux s'agrandissant de surprise.
« C'est parce qu'il s'appelle Tower, se rappela Jake. C'est ça qui m'a surpris. Pas à cause de la tour de Round, pourtant. Je ne savais même pas qu'elle existait à l'époque. Mais à cause de cette image que j'avais mise sur la dernière page de mon devoir de fin d'année. »
Il y avait collé une photo de la tour penchée de Pise, puis il en avait noirci la silhouette avec un crayola, la rendant aussi sombre que possible. Tower lui demanda son nom. Le Jake de 77 le lui dit, et Tower blagua un petit peu. Et c'était de la bonne blague, du genre qu'on peut échanger avec les adultes qui n'ont rien contre les gosses.
« C'est un nom qui sonne bien, partenaire. »
On dirait le nom d'un héros de western, l'étranger qui arrive un beau jour, Black Fork, Arizona, qui nettoie la ville, et puis qui reprend sa route. Un roman de Wayne D. Overholser, peut-être.
Jake se rapprocha de son vieux moi. Une partie de lui se disait « Quel sujet formidable ça ferait sur Saturday Night Live !» Et ses yeux s'écarquillèrent.
« Eddie !»
Il chuchotait toujours alors qu'il savait que personne dans la librairie ne pouvait... Sauf qu'il pouvait peut-être à un niveau différent. Il se rappela la dame sur la 54e rue remontant sa jupe au-dessus du genou pour enjamber Otey. Et à présent, les yeux de Calvin Tower qui glissaient légèrement dans sa direction avant de revenir sur l'autre version de lui.
« Ça serait peut-être bien de ne pas attirer inutilement l'attention, » lui murmura Eddie à l'oreille.
« Je sais, mais jette un œil à Charlie le Chouchou, Eddie. »
Ce que fit Eddie. Au début, il ne vit rien, à part Charlie, bien sûr. Charlie avec son fanal en guise d'œil et son sourire de chasse-pierre un peu filou. Puis, le regard d'Eddie remonta sur la couverture.
« Je croyais que c'était une femme du nom de Beryl Evans qui avait écrit Charlie le Chouchou, » chuchota-t-il.
J'ai caqué ça.
« Moi aussi.
Mais alors, qui est cette Claudia I. Ignace Bachman ?»«
Aucune idée, » répondit Jake. « Jamais entendu parler de ma vie. »
7.
L'un des vieillards accoudés au comptoir vint vers eux d'un pas nonchalant. Eddie et Jake reculèrent. À cet instant, Eddie ressentit un petit déchirement glacé dans la colonne vertébrale. Jake était très pâle et Otey poussait une série de petits gémissements graves. Quelque chose clochait, c'était sûr. En fait, ils avaient effectivement perdu leur ombre, mais Eddie ne savait pas comment. Le gamin de 77 venait de sortir son portefeuille pour payer les deux livres. Il y eut encore quelques paroles échangées, des rires bon enfant... Puis il se dirigea vers la porte. Lorsque Eddie s'engagea derrière lui, le Jack de l'entre-deux-mondes l'attrapa par le bras.
« Non, pas encore. Je vais revenir. »
« Tu peux bien classer tous fourbis par ordre alphabétique, je m'en fous, » fit Eddie. « Sortons sur le trottoir. »
Jack y réfléchit en se mordant la lèvre, puis acquiesça. Ils se dirigèrent vers la sortie, puis s'immobilisèrent avant de s'écarter pour laisser entrer l'autre Jake. Le livre de devinettes était ouvert. Calvin Towers s'était replongé dans sa partie d'échecs au comptoir. Il arborait un sourire aimable.
« T'as finalement décidé de boire un café, ô vagabond hyperboréen ?»«
Non, je voulais juste vous demander. C'est la partie sur la devinette de Samson, » dit le Jack de l'entre-deux-mondes. « Ça n'a pas d'importance, il me semble, sauf que ce gars-là, d'hypno, va chanter une chouette chanson, si tu veux l'entendre. »«
Je vais faire l'impasse, » fit Eddie.
« Bien. » Ils sortirent.
Et même si tout clochait toujours sur la deuxième avenue, ce sentiment d'obscurité sans fin derrière la scène, derrière le ciel même, c'était quand même mieux que dans le restaurant spirituel de Manhattan. Au moins, on était à l'air frais.
« Je vais te dire, » fit Jake, « tu n'as qu'à aller au coin de la deuxième avenue et de la 46e, maintenant. »
D'un coup de tête, il désigna la version de lui qui écoutait Aaron Dipno chanter.
« Je nous rattraperai. »
Eddie réfléchit une seconde, puis secoua la tête. Le visage de Jake s'assombrit un peu.
« Tu ne veux pas boire la rose ?»«
Tu te fous de moi ? Bien sûr que je veux la voir, » répondit Eddie. « Ça me rend dingue !»«
Alors, j'ai pas l'impression qu'on est fini dans le coin.
Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. »
Jake, dans sa version de 77, avait laissé la porte ouverte en rentrant, et Eddie se plaça sur le seuil.
Aaron Dipno racontait à Jake une devinette qu'il soumettrait plus tard à Blaine le Mono. « Qui va son cours mais ne marche point, qui a une bouche mais ne dit rien ?»
Pendant ce temps, Jake de l'entre-deux-mondes consultait une fois de plus le tableau dans la vitrine, William Faulkner poêlé, Raymond Chandler rôti. Il fronçait les sourcils, exprimant plutôt le doute et l'angoisse que la mauvaise humeur.
« Le panneau, il est différent, lui aussi. »
En quoi ?
Je ne m'en souviens plus.
C'est important.
Jake se tourna vers lui. Sous les sourcils froncés, il avait des yeux égarés.
Je ne sais pas, c'est une autre devinette. Je déteste les devinettes.
Eddie ne pouvait que compatir. Quand une Beryl n'est-elle pas une Beryl ?
Quand c'est une Claudia, souffla-t-il.
Hein ?
Non, rien.
On ferait bien d'y aller, Jake. Ou bien tu vas te rentrer dedans. Jake lança à John Chambers un regard alarmé, puis suivit les conseils d'Eddie. Et lorsque le gamin de 77 se retrouva sur la deuxième avenue avec ses livres neufs dans la main gauche, le Jake de l'entre-deux-mondes adressa à Eddie un sourire fatigué.
« Il y a une chose que je me rappelle, » dit-il. En quittant cette librairie, j'étais certain de ne jamais y revenir. Et pourtant, c'est le cas. Si on considère qu'on est plus des fantômes que des personnes réelles, je dirais que ça se discute.
Eddie donna à Jake une petite tape amicale sur la nuque.
Et si vraiment t'as oublié quelque chose d'important, Roland pourra peut-être t'aider à t'en souvenir. Il est bon à ce petit jeu.
Soulagé, Jake fit un large sourire. Il savait d'expérience que le pistolero était effectivement doué pour aider les gens à se souvenir. Alain, l'ami de Roland, était sans doute le plus apte à toucher l'esprit d'autrui, et son autre ami, Cuthbert, était celui doté du plus grand sens de l'humour dans leur quatette de l'époque. Mais avec les années, Roland avait développé de foutues qualités d'hypnotiseur. Il aurait fait un tabac à Las Vegas.
« On peut me suivre maintenant ?» demanda Jake.
Et aller voir la rose ? Du regard, il balaya la deuxième avenue, cette avenue à la fois éclatante et sombre, avec une sorte de perplexité mécontente.
C'est sans doute mieux là-bas. La rose arrange tout.
Eddie était sur le point d'acquiescer quand une berline Lincoln gris anthracite s'arrêta devant la librairie de Calvin Tower.
Elle se gara près du trottoir jaune en face d'une bouche d'incendie sans aucune hésitation. Les portières avant s'ouvrirent, et quand Eddie vit qui sortait du côté conducteur, il attrapa l'épaule de Jake. « Aouh !» fit ce dernier. « Hey, ça fait mal !» Mais Eddie était ailleurs. En fait, il renforça son étreinte sur l'épaule du garçon.
« Tout Jésus !» souffla Eddie. « Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?»
8. Jake regarda Eddie passer du blanc au gris. Les yeux lui sortaient des orbites. Non sans difficulté, Jake décrocha la main vissée à son épaule. Eddie fit mine de la soulever pour désigner quelque chose, mais n'en eut pas la force. Elle retomba le long de sa hanche avec un petit bruit mat. L'homme, qui était descendu du côté passager de la berline, la contourna pendant que le chauffeur ouvrait la portière arrière côté trottoir. Même aux yeux de Jake, leurs mouvements paraissaient synchronisés comme des pas de danse. L'homme à l'arrière portait un costume cher, mais ça ne suffisait pas à masquer le fait qu'il n'était qu'un petit bonhomme courtaud avec une bedaine et des cheveux noirs qui grisonnaient aux tempes. Des cheveux pleins de pellicules, à en juger par l'état des épaules de son costume. Pour Jake, il fit soudain plus sombre que jamais. Il leva la tête pour voir si le soleil ne s'était pas caché derrière un nuage. Pas de nuage, mais il lui sembla qu'une couronne noire s'était dessinée autour du cercle lumineux comme un anneau de mascara autour d'un œil grand ouvert. Un peu plus bas dans la rue, la version 1977 de lui regardait à travers la baie vitrée d'un restaurant, et Jake s'en rappelait même le nom. Mama Chocho. Non loin de là se trouvait le disquaire Tower of Power, où, se disait-il, les tours se vendent à pas cher aujourd'hui. Si ce Jake-là avait regardé en arrière, il aurait vu la berline grise. Mais non. L'esprit du gamin de 77 était résolument tourné vers l'avenir. « C'est Balazar, » dit Eddie.
« Quoi ?»
Eddie désignait le gars courtaud qui s'était arrêté pour ajuster sa cravate sous le cas. Les deux autres étaient maintenant debout à ses côtés. Tous deux avaient l'air à la fois détendus et sur leur garde. « Enrico Balazar. » Et il a l'air beaucoup plus jeune. « Mon Dieu, il a à peine la quarantaine !»« On est en 1977, lui rappela Jake. » Puis, le temps que l'idée fasse son chemin, « C'est ce type que Roland et toi, vous avez tué ?» Eddie avait raconté à Jake l'histoire de la fusillade au club de Balassal en 1987 en évitant les détails les plus sanglants. Comme par exemple le fait que Kevin Blake avait balancé la tête du frère d'Eddie dans le bureau de Balazar dans l'espoir de les faire sortir à découvert, lui et Roland. Henry Dean, le grand sage et éminent junkie. « Ouais, » fit Eddie, « le type que Roland et moi on a tué. Et celui qui conduisait là, c'est Jake Andolini, triple mocheté comme on l'appelait, mais jamais en face. Il a passé une de ses portes avec moi juste avant le début de la fusillade. Roland l'a tué, lui aussi, pas vrai ? Eddie hocha la tête. C'était plus simple que d'essayer d'expliquer comment Jake Andolini était mort aveugle, défiguré par les pinces déchirantes et les mâchoires monstrueuses des omarstruosités qu'il avait déchiquetées sur la plage. L'autre garde du corps, c'est George Biondi, gros blaire. Je l'ai tué moi-même. « Je vais le tuer, plutôt. Dans 10 ans. » On aurait dit qu'il était sur le point de s'évanouir d'une minute à l'autre. « Eddie, ça va ?»«
Je crois que oui. Faudra bien que ça aille. »
Il s'était écarté de l'entrée de la librairie. Otté était toujours tapi contre la cheville de Jake. Plus bas, dans la deuxième avenue, l'autre Jake avait disparu. En ce moment... « Je suis en train de courir, » pensa Jake. « Peut-être que là, je saute au-dessus du chariot du livreur UPS. Je cours à fond en direction du traiteur parce que je suis sûr que c'est le moyen de retourner dans l'entre-deux-mondes, le moyen de retourner jusqu'à lui.
Balassar scruta son reflet dans la vitrine à côté du panneau « Menu du jour ». Du bout des doigts, il fit bouffer une dernière fois les petites touffes de cheveux sur ses tempes avant de passer la porte ouverte. Andolini et Biondi lui emboîtèrent le pas.
« T'es dur, ces mecs, » dit Jake.
« Les plus durs, » acquiesça Eddie.
« Ils viennent de Brooklyn ?»«
Bah ouais. »« Qu'est-ce que des durs de Brooklyn viennent faire dans une librairie d'occasion de Manhattan ?»«
J'imagine que c'est ce qu'on est censé découvrir. »«
Jake, je t'ai fait mal à l'épaule ?»«
Ça va. »«
J'ai pas très envie de retourner là-dedans. »
Moi non plus.
Alors allons-y.
Et ils rentrèrent dans le restaurant spirituel de Manhattan.
9.
Otté était toujours blotti contre les pieds de Jake et il gémissait. Jake ne raffolait pas du bruit, mais il le comprenait. Dans la librairie, la peur était palpable. Dipno était assis derrière l'échiquier, jetant un regard mécontent à Tower et aux nouveaux arrivants qui n'avaient pas franchement l'air de bibliophiles en quête de quelque obscure édition originale dédicacée. Les deux autres vieux types au comptoir finirent leur café avec de grandes gorgées bruyantes, avec cet air de type qui viennent de se rappeler qu'ils avaient un rendez-vous très important à l'autre bout de la ville.
Bande de lâches, pensa Jake avec un mépris qu'il ne reconnut pas comme quelque chose de très nouveau dans sa vie.
Espèce de rampant. La vieillesse peut excuser certaines choses, mais pas tout.
Nous avons deux ou trois petites choses à nous dire, monsieur Torren, disait Balassar.
Il parlait d'une voix basse, calme et raisonnable, sans la moindre pointe d'accent.
Si nous pouvions seulement passer dans votre bureau...
« Nous ne faisons pas affaire, » répondit Tower. Son regard semblait attiré par Andolini. Jake crut deviner pourquoi. Jake Andolini avait la tête du taré qui brandit sa hache dans les films d'horreur.
« Revenez le 15 juillet, on pourra peut-être discuter. J'ai bien dit peut-être. Et on pourra parler après le 4. Je suppose, si vous le vouliez bien. »
Il sourit pour montrer qu'il savait être raisonnable.
« Mais maintenant, bon Dieu, je vois pas l'intérêt. On n'est même pas encore en juin. Et pour votre information, laissez-moi vous dire que je ne m'appelle pas.
Il ne voit pas l'intérêt, » répéta Balassar. Il tourna la tête vers Andolini, regarda celui avec un gros nez, puis il leva les mains et les laissa retomber.
« Mais qu'est-ce qui cloche sur cette foutue planète ?» disait son geste.
« Jake, George, cet homme a pris un chèque, mon chèque, dont le montant avant la virgule comprenait 5 zéros, et maintenant, il voit pas l'intérêt de me parler. »«
C'est pas croyable, » fit Biondi.
Andolini ne dit rien.
Il se contenta de regarder Calvin Tower, le scrutant de ses yeux bruns boueux plantés sous ce front laid et saillant, comme de petits animaux vicieux au fond d'une grotte. Avec un visage de ce genre, se dit Jake, qui n'avait pas besoin de parler beaucoup pour arriver à ses fins. Les fins en question étant l'intimidation.
« Eh bien, moi, je veux vous parler, » reprit Balassar.
Son ton restait patient et raisonnable, mais ses yeux étaient plantés sur Tower avec une intensité terrible.
Pourquoi ?
Parce que mes employeurs dans cette affaire veulent vous parler. Moi, ça me suffit.
Et vous savez quoi ? Il me semble que vous pouvez bien prendre 5 minutes de votre temps pour bavarder de vos 100 000 billets. Vous ne croyez pas ?
« Les 100 000 ont disparu, » fit Tower d'un ton sombre. comme vous devez le savoir, vous et ceux qui vous emploient, qui qu'ils soient.
Ça ne me regarde pas, répondit Balassin. Pourquoi ça me regarderait? C'était votre argent. Ce qui me regarde, c'est de savoir si, oui ou non, vous allez nous emmener dans l'arrière-boutique. Parce que, si ça n'est pas le cas, il va falloir que cette petite conversation, on l'ait ici, devant tout le monde. Tout le monde, c'était Aaron Dipnow, un bafouilleux et deux New-Yorkais expatriés qu'aucun des hommes dans la boutique ne pouvait voir. Les compères de Dipnow s'étaient carapatés comme des rampants qu'ils étaient. Tower fit une dernière tentative.
« Je n'ai personne pour m'occuper de la boutique. C'est bientôt la pause déjeuner et en général nous avons beaucoup de clients. Cette boutique ne rapporte même pas $50 par jour, Fiandolini. Et vous le savez aussi bien que moi, Monsieur Torren. »
Alors si vous craignez de rater la vente du siècle, vous n'avez qu'à le laisser s'occuper de la caisse 2 minutes. » L'espace d'une seconde effroyable, Jake crut que celui qu'Eddie avait surnommé « Triple Mocheté » désignait John Jake Chambers. Puis il constata qu'Andolini montrait du doigt quelqu'un derrière lui, Dipnow.
Tower baissa les bras. Ou Torren.
Aaron ? Demanda-t-il. Ça ne te dérange pas ?
Non, si ça va pour toi, répondit Dipnow, l'air troublé.
Tu es sûr de vouloir discuter avec ces types ?
Biondi lui lança un regard en coin.
Jake trouva que Dipnow l'encaissait remarquablement bien. Curieusement, il se sentait fier du vieux bonhomme.
Ouais, le rassura Tower, tout va bien.
Ne vous inquiétez pas. Il ne va pas perdre sa virginité anale dans l'histoire, fit Biondi, et il éclata de rire. « Surveille ton langage, tu es dans un des temples de la culture, » fit Balassar, mais Jake crut lui voir un sourire au coin des lèvres. « Allez, Torren, rien qu'une petite discussion. »«
Je ne m'appelle pas comme ça, j'ai fait changer légalement mon peu importe, » dit Balassar d'un ton apaisant, en allant même jusqu'à tapoter le bras de Tower.
Jake essayait toujours de se faire à l'idée que tout ça, tout ce mélodrame s'était produit après qu'il avait quitté la boutique avec ses 2 livres neufs, neufs pour lui en tout cas, et repris son chemin. À l'idée que tout ça s'était produit derrière son dos.
Un boche. Ça reste un boche, pas vrai, patron ? Lança Biondi d'un air jovial.
Ou un Dutch. Il appelle ça comme il veut.
Ce à quoi Balassar répondit « Si je veux que tu parles, George te dirait ce que je veux que tu dises. C'est bien compris ?»«
Ok !» répondit Biondi.
Puis, jugeant sans doute qu'il avait manqué d'enthousiasme, il renchérit.
« Ouais, bien sûr. Bien. »
Balassar, qui tenait maintenant fermement le bras de Tower, guida ce dernier vers le fond de la boutique. Des livres y étaient empilés, pêle-mêle. L'air était lourd de l'odeur de toutes ces pages moisies. Il y avait une porte portant l'inscription réservée au personnel. Tower sortit un trousseau de clés qui tintèrent doucement tandis qu'il cherchait la bonne.
« Il a les mains qui tremblent, » murmura Jake.
Eddie acquiesça de la tête. « Je serais pareil à sa place. » Tower trouva la clé qu'il cherchait, la glissa dans la serrure et ouvrit la porte. Il jeta de nouveau un œil en direction des 3 hommes qui étaient passés lui rendre visite, des durs de Brooklyn, puis il les fit entrer dans l'arrière-boutique. La porte se referma derrière eux, et Jake entendit le bruit d'un verrou qu'on pousse. Il douta que ce fût par Tower. Jake leva les yeux vers le miroir antivol convexe suspendu dans un coin, vit Dipnow décrocher le téléphone situé sous la caisse, réfléchir une seconde, puis le reposer.
« Et maintenant, on fait quoi ?» demanda Jake à Eddie.
« Je vais essayer un truc, » dit Eddie. « Je l'ai vu faire dans un film. » Il se tint face à la porte close, puis fit un clin d'œil à Jake.
« Bon, j'y vais. Si tout ce que je réussis à faire, c'est à me cogner le crâne, traite-moi de con. Ne te gêne pas. »
Avant que Jake pût lui demander de quoi il parlait, Eddie fonça droit dans la porte. Jake le vit fermer les yeux et faire la grimace. C'était l'expression d'un homme qui s'attend à prendre un grand coup. Mais il n'y eut pas de grand coup. Eddie passa à travers la porte, tout simplement. Pendant une seconde, son mocassin dépassa, puis il disparut. Il y eut un frottement sourd, comme si on passait la main sur du bois brut. Jake se baissa et prit Otte dans ses bras.
« Ferme les yeux, lui dit-il.
« Yeux !» acquiesça le bafouilleux, mais en continuant de dévisager Jake avec cet air d'adoration paisible. Jake ferma les yeux en serrant très fort. Lorsqu'il les rouvrit, il vit qu'Otte l'imitait. Sans perdre de temps, Jake fonça dans la porte avec l'écriteau réservé au personnel. Il y eut une seconde d'obscurité et l'odeur du bois. Dans un recoin de sa tête, il entendit de nouveau le carillon. Puis il passa à travers.
10. Il s'agissait d'un entrepôt, bien plus vaste que ce à quoi s'attendait Jake, presque aussi grand qu'un hangar et bondé de livres dans tous les coins. Il évalua que certaines piles, soutenues par deux poutrelles verticales et qui tenaient plus du stockage que du classement, devaient mesurer environ 5 mètres de haut. Des allées étroites et tordues serpentaient entre les piles. Dans l'une d'elles, il aperçut une plateforme à roulettes qui lui rappela ces rampes d'embarquement amovibles qu'on voit dans les petits aéroports. L'odeur de vieux livres était la même que dans la petite arrière-boutique, mais beaucoup plus forte, presque suffocante. Au-dessus d'eux pendait une série de lampes avec abat-jour qui diffusaient un éclairage jaunâtre et inégal. Les ombres de Tower, Balassar et des amis de ce dernier bondissaient sur le mur de gauche en forme grotesque. Tower conduisit ses visiteurs dans un coin qui faisait office de bureau. On y trouvait une table de travail, sur laquelle était posée une machine à écrire et un fichier tournant Rolodex, ainsi que 3 vieux casiers et des paperasses qui recouvraient tout un mur. Un calendrier était accroché, et la page de mai montrait un type du 19e siècle qui ne dit d'abord rien à Jake, puis il reconnut Robert Browning. Il l'avait cité dans son devoir de fin d'année. Tower s'assit derrière le bureau et parut le regretter immédiatement. Jake éprouva de la compassion pour lui, se retrouver ainsi encerclé par les 3 autres ne devait pas être des plus agréables. Leurs ombres dansaient sur le mur du fond comme des gargouilles. Balassar fouilla dans la poche de son complet et en sortit une feuille de papier pliée. Il la déplia et la posa sur le bureau devant Tower.
« Ça te rappelle quelque chose ?»
Eddie s'approcha, Jake le retint.
Pas si près, ils vont le sentir. Je m'en fiche, il faut que je voie ce papier.
Ne voyant pas quoi faire d'autre, Jake le suivit. Otte s'agitait dans ses bras et se mit à geindre.
Jake la fit taire sèchement et Otte plissa les yeux. Désolé, mon vieux, lui dit le garçon, mais il faut que tu te taises.
Son double de 1977 était-il déjà arrivé dans le terrain vague? Une fois à l'intérieur, ce Jake antérieur avait glissé sur quelque chose et s'était assommé en tombant. L'incident s'était-il déjà produit?
À quoi bon se tracasser?
Eddie avait raison. Jake n'aimait pas ça, mais il savait que c'était vrai. Ils étaient censés se trouver ici même, pas là-bas. Et ils étaient censés voir ce papier que Balassar était en train de montrer à Calvin Tower. Eddie réussit à apercevoir les 2 ou 3 premières lignes avant que Jake Andolini ne dise
« Patron, j'aime pas ça, y a un truc pas net. »
Balassa l'acquiesça.
« Je suis d'accord.
Y a quelqu'un ici avec nous, monsieur Torren ?»
Il avait employé un ton calme et courtois, mais ses yeux balayaient tout l'entrepôt en évaluant les cachettes potentielles.
« Non, » fit Tower. « Enfin, il y a Sergio, c'est le chat de la boutique.
J'imagine qu'il doit se balader quelque... C'est pas une boutique, répliqua Biondi. C'est un trou à fric. Même un de ces architectes branchés aurait du mal à rapporter assez de blé pour couvrir les frais d'une boîte aussi énorme. Alors, une librairie? Tu te moques de qui, là?
De lui-même, se dit Eddie. Il se moque de lui-même, pensa Eddie. Il se berne lui-même. Et comme si cette pensée l'avait appelé, l'effroyable carillon résonna de nouveau. Les truands dans l'entrepôt ne l'entendaient visiblement pas, mais Jake et Otte, si. Eddie put le lire à leur tête affligée. Et soudain, toute la pièce, déjà peu éclairée, devint plus sombre encore.
On repart, comprit Eddie. Bon Dieu, on repart! Mais pas avant d'avoir, il se pencha entre Andolini et Balassar, conscient de ce que tous les deux balayaient autour d'eux des yeux écarquillés et prudents. Eddie s'en moquait. Ce qui lui importait, c'était ce morceau de papier. Quelqu'un avait loué les services de Balassar dans un premier temps pour faire signer Tower, Doran, probablement, puis pour lui mettre sous le nez au moment choisi. Certainement.
Dans la plupart des cas, Ilroch se contentait d'envoyer quelques-uns de ses durs, ses messieurs, comme il les appelait, s'occuper de ce genre d'affaires. Pour celle-ci, cependant, les enjeux avaient paru suffisamment importants pour qu'il se déplace personnellement. Eddie voulait savoir pourquoi.
Protocole d'accord. Ce document constitue un pacte d'accord entre M. Calvin Tower, résident à New York, propriétaire d'un bien constitué principalement d'un terrain vague, numéro d'identification lot 298, numéro 19, situé. Le carillon vint de nouveau lui vriller la tête, le faisant trembler. Cette fois, il résonnait plus fort. La pénombre s'épaissit, coulant sur les murs de l'entrepôt. Cette obscurité qu'Eddie avait ressentie dans la rue gagnait du terrain. Il se ferait peut-être balayer. Ça serait pas beau à voir. Ou bien il se noierait, ce qui serait encore pire. Pas de doute, se noyer dans les ténèbres, ça serait vraiment une fin atroce. Et imaginons qu'il y ait des trucs dans ces ténèbres, des trucs affamés comme le gardien de la porte.
Il y en a. C'était la voix de Henry, pour la première fois depuis presque 2 mois. Eddie revoyait Henry, debout juste derrière lui, avec son grand sourire cireux de camé. Les yeux injectés de sang, les dents jaunes négligées.
« Tu sais qu'il y en a. Mais quand tu entends la petite musique, c'est qu'il est temps d'y aller, frérot. Je crois que tu le sais. »« Eddie !» cria Jake. « Ça recommence, tu l'entends ?»«
Accroche-toi à ma ceinture, » dit Eddie. Il parcourut frénétiquement du regard le papier que Tower tenait entre ses mains grassouillettes. Balassal, Andolini et Gros Blair regardaient toujours autour d'eux. Biondi avait même dégainé son arme.
« T'as... peut-être qu'on sera pas séparés, » expliqua Eddie. Le carillon était plus tonitruant que jamais. Et il grogna.
Les mots sur la page devinrent flous. Eddie plissa les yeux, ramenant une image plus nette. Si, à Manhattan, New York, au coin de la 46e rue et de la 2e avenue, et Sombra Corporation, firme concluant des affaires dans l'État de New York. En ce jour du 15 juillet 1976, Sombra verse un montant non remboursable de 100 000 $ à Calvin Tower, montant dont le reçu est authentifié au vu de cette propriété. En considération de quoi, Calvin Tower s'engage à ne pas... Le 15 juillet 1976, moins d'un an auparavant. Eddie sentit les ténèbres fondre sur eux, et essaya d'entasser le reste du texte à l'intérieur de ses yeux pour se l'enfoncer dans le cerveau, en engranger assez pour essayer de comprendre ce qui se passait ici. S'il réussissait, ce serait au moins un pas vers la compréhension de tout ça.
Si ce foutu carillon ne me rend pas dingue, si ces choses dans les ténèbres ne nous avalent pas au retour... Eddie !
Jake ! Terrifié par le bruit, Eddie l'ignora. Calvin Tower s'engage à ne pas vendre, louer ou hypothéquer la propriété pendant une période d'un an à compter de la présente date, prenant donc fin le 15 juillet 1977.
Il a été conclu que Sombra Corporation disposera d'un droit de préemption au rachat de la propriété susmentionnée comme défini ci-dessous. Pendant cette période, Calvin Tower protégera pleinement les intérêts de Sombra Corporation concernant la dite propriété comme décrit ci-dessus et n'autorisera aucun droit de gage ou charge hypothécaire. Ce n'était pas tout. Mais le carillon était devenu insupportable, sa tête explosait. L'espace d'une seconde, Eddie comprit. La vache, il le voyait presque. Combien ce monde était devenu inconsistant, comme tous les mondes probablement, aussi usé et fragile que son vieux jean. Il réussit à saisir une dernière phrase sur le papier. Si ces conditions sont réunies, il aura le droit de vendre ou de transmettre cette propriété à Sombra ou à toute autre partie de son choix. Puis les mots disparurent, tout disparut en tourbillonnant dans un gigantesque trou noir. Jake s'accrochait d'une main à la ceinture d'Eddie et de l'autre à Otte. Otte qui à présent aboyait frénétiquement et Eddie eut une nouvelle vision confuse de Dorothy propulsée au pays d'Oz. Il y avait bel et bien des choses dans les ténèbres. Des formes qui surgissaient derrière d'étranges yeux phosphorescents, le genre de truc qu'on voit dans les documentaires sur les créatures peuplant les grands fonds marins. Sauf que dans ces documentaires, les explorateurs sont toujours dans des modules protégés, alors que Jake et lui... Le carillon devint tellement fort qu'il menaça de leur faire éclater les tympans. Eddie avait l'impression qu'on lui avait fourré la tête à l'intérieur de Big Ben au moment où cette grosse cloche sonnait minuit. Il se mit à hurler et n'entendit pas sa propre voix. Puis le carillon disparut. Tout disparut. Jake, Otte, l'entre-deux-monde. Et il se retrouva flottant quelque part entre les étoiles et les galaxies.
« Susanna !» cria-t-il. « Où es-tu ? Suze ?»
Pas de réponse. Rien que les ténèbres.